Madame, oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux?
Et sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire, prince? Aurais-je perdu tous les soins de ma gloire?
Madame, pardonnez. J'avoue, en rougissant, que j'accusais à tort un discours innocent. Ma honte ne peut plus soutenir votre vue, et je vais...
Ah, Doruel, tu m'as trop entendu. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc mon Phèdre et toute sa fureur. J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. Ni que du fol amour qui trouble ma raison, ma lâche complaisance et nourrit le poison. Objet infortuné des vengeances célestes, je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes.
Bonjour, nous vous proposons ce jour une nouvelle émission de la série que nous consacrons à Marcel Proust. Le thème de cette émission est « Albertine, femme libre ». Le personnage d'Albertine est aussi un des personnages centraux de la recherche. Il apparaît non pas au début, mais au moment où le narrateur, devenu très jeune homme, fréquente les plages de Balbec et découvre la bande des jeunes filles en fleurs, dont il aura tôt fait d'extraire la jolie Albertine comme sa préférée, et avec laquelle il va s'engager dans une aventure amoureuse aussi compliquée que fascinante et possessive. Nous n'évoquerons là que de très partiels aspects de leur histoire, qui concernent plus particulièrement deux épisodes de la résistance de la jeune femme à la volonté de pouvoir sur elle du narrateur. Des illustrations musicales viendront ponctuer les lectures. Il s'agira d'extraits musicaux tirés de différentes pièces du groupe Itinérance et de Jean-Claude Guerre, son fondateur et compositeur. En ouverture, en relation avec notre thématique, vous avez entendu un court extrait de la pièce de Racine « Phèdre » interprété par la compagnie Maribel en 1965, encadré de deux extraits de l'ouverture en la mineur de Telemann. Ces émissions sont réalisées avec la participation à la diction, mais aussi au choix des thèmes et extraits retenus d'André Bonhomme, avec qui donc nous co-réalisons ces émissions. Bonne écoute.
Comme chaque fois que la porte cochère s'ouvrait, la concierge appuyait sur un bouton électrique qui éclairait l'escalier, et comme il n'y avait pas de locataires qui ne fussent rentrés, je quittais immédiatement la cuisine et revins m'asseoir dans l'antichambre, épiant, là où la tenture un peu trop étroite qui ne couvrait pas complètement la porte vitrée de notre appartement, laissait passer la sombre raie verticale faite par la demi-obscurité de l'escalier. Si tout d'un coup cette raie devenait d'un blond doré, c'est qu'Albertine viendrait d'entrer en bas et serait dans 2 minutes près de moi. Personne d'autre ne pouvait plus venir à cette heure-là. Et je restais, ne pouvant détacher mes yeux de la raie qui s'obstinait à demeurer sombre. Je me penchais tout entier pour être sûr de bien voir. Mais j'avais beau regarder, le noir vertical, malgré mon désir passionné, ne me donnait pas l'enivrante allégresse que j'aurais eue si je l'avais vu changer par un enchantement soudain et significatif en un lumineux barreau d'or. C'était bien de l'inquiétude pour cette Albertine à laquelle je n'avais pas pensé 3 minutes pendant la soirée guermante. Mais, réveillant les sentiments d'attente jadis éprouvés à propos d'autres jeunes filles, surtout de Gilberte, quand elle tardait à venir, la privation possible d'un simple plaisir physique me causait une cruelle souffrance morale. Il me fallut rentrer dans ma chambre. Françoise m'y suivit. Elle trouvait, comme j'étais revenu de ma soirée, qu'il était inutile que je gardasse la rose que j'avais à la boutonnière, et vint pour me l'enlever. Son geste, en me rappelant qu'Albertine pouvait ne plus venir, et en m'obligeant aussi à confesser que je désirais être élégant pour elle, me causa une irritation qui fut redoublée du fait qu'en me dégageant violemment, je froissais la fleur et que Françoise me dit « Il aurait mieux valu me la laisser ôter, plutôt que non pas la gâter ainsi. » D'ailleurs, ses moindres paroles m'exaspéraient. Dans l'attente, on souffre tant de l'absence de ce qu'on désire qu'on ne peut supporter une autre présence. Françoise sortit de la chambre. Je pensais que, si c'était pour en arriver maintenant, à avoir de la coquetterie à l'égard d'Albertine, il était bien fâcheux que je me fusse montré tant de fois à elle, si mal rasée, avec une barbe de plusieurs jours, les soirs, où je la laissais venir pour commencer nos caresses. Je sentais qu'insoucieuse de moi, elle me laissait seule. Pour embellir un peu ma chambre, si Albertine venait encore et parce que c'était une des plus jolies choses que j'avais, je remis pour la première fois depuis des années sur la table qui était auprès de mon lit ce portefeuille orné de turquoise que Gilberte m'avait fait faire pour envelopper la plaquette de Bergotte et que, si longtemps, j'avais voulu garder avec moi, pendant que je dormais, à côté de la bille d'agate. D'ailleurs, autant peut-être qu'Albertine, toujours pas venue, sa présence en ce moment dans un ailleurs, qu'elle avait trouvé évidemment plus agréable et que je ne connaissais pas, me causait un sentiment douloureux, qui, malgré ce que j'avais dit, il y avait à peine une heure à Swann, sur mon incapacité d'être jaloux, aurait pu, si j'avais vu mon ami à des intervalles moins éloignés, se changer en un besoin anxieux de savoir où, avec qui, elle passait son temps. Je n'osais pas envoyer chez Albertine. Il était tard. Mais dans l'espoir que, soupant peut-être avec des amis, dans un café, elle aurait l'idée de me téléphoner, je tournai le commutateur et, rétablissant la communication dans ma chambre, je la coupai entre le bureau de poste et la loge du concierge à laquelle il était relié d'habitude à cette heure-là. Aussi le téléphone était-il placé dans ma chambre, et pour qu'il ne gênât pas mes parents, sa sonnerie était remplacée par un simple bruit de tourniquet. De peur de ne pas l'entendre, je ne bougeais pas. Mon immobilité était telle que pour la première fois depuis des mois, je remarquais le tic-tac de la pendule. Françoise vint arranger les choses. Elle causait avec moi, mais je détestais cette conversation sous la continuité uniformément banale de laquelle mes sentiments changeaient de minute en minute, passant de la crainte à l'anxiété, de l'anxiété à la déception complète. Différent des paroles vaguement satisfaites que je me croyais obligé de lui adresser, je sentais mon visage si malheureux que je prétendis que je souffrais d'un rhumatisme pour expliquer le désaccord entre mon indifférence simulée et cette expression douloureuse. Puis je craignis que les paroles prononcées, d'ailleurs à mi-voix par Françoise, non à cause d'Albertine, car elle jugeait passer depuis longtemps l'heure de sa venue possible, risquassent de m'empêcher d'entendre l'appel sauveur qui ne viendrait plus. Enfin, Françoise alla se coucher. Je la renvoyai avec une rude douceur pour que le bruit qu'elle ferait en s'en allant ne couvrît pas celui du téléphone. Et je recommençai à écouter, à souffrir. Quand nous attendons de l'oreille qui recueille les bruits, à l'esprit qui les dépouille et les analyse, et de l'esprit au cœur, à qui il transmet ses résultats, le double trajet est si rapide que nous ne pouvons même pas percevoir sa durée et qu'il semble que nous écoutions directement avec notre cœur. J'étais torturé par l'incessante reprise du désir toujours plus anxieux et jamais accompli d'un bruit d'appel, arrivé au point culminant d'une ascension tourmentée dans les spirales de mon angoisse solitaire, du fond de Paris populeux et nocturne, approché soudain de moi, à côté de ma bibliothèque, j'entendis, tout à coup, mécanique et sublime, comme dans Tristan, l'écharpe agitée ou le chalumeau du pâtre, le bruit de toupie du téléphone. Je m'élançai. C'était Albertine. Je ne vous dérange pas en vous téléphonant à une pareille heure? Mais non, dis-je en comprimant ma joie. Car ce qu'elle disait de l'heure indue était sans doute pour s'excuser de venir dans un moment si tard, Non, parce qu'elle n'allait pas venir. Est-ce que vous venez ? Demandai-je d'un ton indifférent. Mais non, si vous n'avez pas absolument besoin de moi. Une partie de moi à laquelle l'autre voulait se rejoindre était en Albertine. Il fallait qu'elle vînt. Mais je ne lui dis pas d'abord. Comme nous étions en communication, je me dis que je pourrais toujours l'obliger à la dernière seconde, soit à venir chez moi, soit à me laisser courir chez elle. Oui, je suis près de chez moi, dit-elle, et infiniment loin de chez vous. Je n'avais pas bien lu votre mot. Je viens de le retrouver et j'ai eu peur que vous m'attendiez. Je sentais qu'elle mentait. Et c'était maintenant dans ma fureur, plus encore par besoin de la déranger que de la voir, que je voulais l'obliger à venir. Mais je tenais d'abord à refuser ce que je tâcherais d'obtenir dans quelques instants. Mais où était-elle ? À ces paroles se mêlaient d'autres sons. La trompe d'un cycliste, la voix d'une femme qui chantait, une fanfare lointaine retentissait aussi distinctement que la voix chère, comme pour me montrer que c'était bien Albertine dans son milieu actuel qui était près de moi en ce moment, comme une motte de terre avec laquelle on a emporté toutes les graminées qui l'entourent. Les mêmes bruits que j'entendais frappaient aussi son oreille et mettaient une entrave à son attention. Détails de vérité, étrangers au sujet, inutiles en eux-mêmes, d'autant plus nécessaires à nous révéler l'évidence du miracle, très sobre et charmant. Descriptif de quelques rues parisiennes, très perçant aussi, et cruel, d'une soirée inconnue qui, au sortir de Phèdre, avait empêché Albertine de venir chez moi. Je commence par vous prévenir que ce n'est pas pour que vous veniez, car à cette heure-ci, vous me gêneriez beaucoup, lui dis-je. Je tombe de sommeil. Et puis, enfin, mille complications. Je tiens à vous dire qu'il n'y avait pas de malentendu possible dans ma lettre. Vous m'avez répondu que c'était convenu. Alors, si vous n'aviez pas compris, qu'est-ce que vous entendiez par là? J'ai dit que c'était convenu seulement, Je ne me souvenais plus trop de ce qui était convenu. Mais je vois que vous êtes fâché. Cela m'ennuie. Je regrette d'être allé à Phèdre. Si j'avais su que cela ferait tant d'histoires, ajouta-t-elle. Comme tous les gens qui en faute pour une chose font semblant de croire que c'est une autre qu'on leur reproche. Phèdre n'est pour rien dans mon mécontentement puisque c'est moi qui vous ai demandé d'y aller. Alors, vous m'en voulez? C'est ennuyeux qu'il soit trop tard ce soir. Sans cela, je serai allé chez vous. Mais je viendrai demain, ou après-demain, pour m'excuser. Oh non, Albertine, je vous en prie. Après m'avoir fait perdre une soirée, laissez-moi au moins la paix les jours suivants. Je ne serai pas libre avant une quinzaine de jours, ou 3 semaines. Écoutez, si cela vous ennuie, que nous restions sur une impression de colère, et au fond, vous avez peut-être raison, alors j'aime encore mieux, fatigue pour fatigue, puisque je vous ai attendu jusqu'à cette heure-ci, et que vous êtes encore dehors, que vous veniez tout de suite. Je vais prendre du café pour me réveiller. Ce ne serait pas possible de remettre cela à demain parce que la difficulté... En entendant ces mots d'excuse prononcés comme si elle n'allait pas venir, je sentis qu'au désir de revoir la figure veloutée qui déjà à Balbec dirigeait toutes mes journées vers le moment où, devant la mer mauve de septembre, je serais auprès de fleurs roses, tentait douloureusement de s'unir un élément bien différent. Ce terrible besoin d'un être à Combray, j'avais appris à le connaître au sujet de ma mère, et jusqu'à vouloir mourir, si elle me faisait dire par Françoise qu'elle ne pourrait pas monter. Cet effort de l'ancien sentiment pour se combiner et ne faire qu'un élément unique avec l'autre plus récent, et qui, lui, n'avait pour voluptueux objet que la surface colorée, la rose carnation d'une fleur de plage, cet effort aboutit souvent à ne faire au sens chimique qu'un corps nouveau qui ne peut durer que quelques instants. Ce soir-là, du moins, et pour longtemps encore, les deux éléments restèrent dissociés. Mais déjà, au dernier mot entendu au téléphone, je commençais à comprendre que la vie d'Albertine était située, non pas matériellement sans doute, à une telle distance de moi qu'il m'eût fallu toujours de fatigantes explorations pour mettre la main sur elle. Mais de plus, organisée comme des fortifications de campagne, et pour plus de sûreté, de l'espèce de celle qu'on a pris plus tard l'habitude d'appeler camouflée. Albertine, au reste, faisait à un degré plus élevé de la société partie de ce genre de personnes à qui la concierge promet à votre porteur de faire remettre la lettre quand elle rentrera, jusqu'au jour où vous vous apercevez que c'est précisément elle, la personne rencontrée dehors et à laquelle vous vous êtes permis d'écrire, qui est la concierge. De sorte qu'elle habite bien, mais dans la loge, le logis qu'elle vous a indiqué, lequel d'autre part est une petite maison de passe, dont la concierge et la maquerelle. Existence disposée sur 5 ou 6 lignes de repli, de sorte que, quand on veut voir cette femme ou savoir, on est venu frapper trop à droite, ou trop à gauche, ou trop en avant, ou trop en arrière, et qu'on peut pendant des mois, des années, tout ignorer. Pour Albertine, je sentais que je n'apprendrais jamais rien, qu'entre la multiplicité entremêlée des détails réels et des faits mensongers, je n'arriverais jamais à me débrouiller. Et que ce serait toujours ainsi, à moins que de la mettre en prison, mais on s'évade jusqu'à la fin. Ce soir-là, cette conviction ne fit passer à travers moi qu'une inquiétude, mais où je sentais frémir comme une anticipation de longues souffrances. Mais non, répondis-je, je vous ai déjà dit que je ne serai pas libre avant 3 semaines, pas plus demain qu'un autre jour. Bien. Alors je vais prendre le pas de course. C'est ennuyeux parce que je suis chez une amie qui... Je sentais qu'elle n'avait pas cru que j'accepterais sa proposition de venir, laquelle n'était donc pas sincère, et je voulais la mettre au pied du mur. Qu'est-ce que ça peut me faire, votre amie? Venez ou ne venez pas, c'est votre affaire. Ce n'est pas moi qui vous ai demandé de venir. C'est vous qui me l'avez proposé. Ne vous fâchez pas. Je saute dans un fiacre et je serai chez vous dans 10 minutes. Ainsi de ce Paris des profondeurs nocturnes duquel avait déjà émané jusque dans ma chambre, mesurant le rayon d'action d'un être lointain, le message invisible, Ce qui allait surgir et apparaître après cette première annonciation, c'était cette Albertine que j'avais connue jadis sous le ciel de Balbec, quand les garçons du grand hôtel, en mettant le couvert, étaient aveuglés par la lumière du couchant, que les vitres étant entièrement tirées, les souffles imperceptibles du soir passaient librement de la plage où s'attardaient les derniers promeneurs à l'immense salle à manger où les premiers dîneurs n'étaient pas assis encore, et que dans la glace placée derrière le comptoir passait le reflet rouge de la coque et s'attardait longtemps le reflet gris de la fumée du dernier bateau pour Ribeuvel. Je ne me demandais plus ce qui avait pu mettre Albertine en retard. Et quand Françoise entra dans ma chambre me dire « Mademoiselle Albertine est là », je répondis, sans même bouger la tête, ce fut seulement par dissimulation. « Comment Mademoiselle Albertine vient-elle aussi tard ?» Mais levant les yeux sur Françoise, comme dans une curiosité d'avoir sa réponse qui devait corroborer l'apparente sincérité de ma question, je m'aperçus, avec admiration et fureur, que, capable de rivaliser avec la Berma elle-même dans l'art de faire parler les vêtements inanimés et les traits du visage, Françoise avait su faire la leçon à son corsage, à ses cheveux dont les plus blancs avaient été ramenés à la surface, exhibés comme un extrait de naissance, à son cou courbé par la fatigue et l'obéissance. Il la plaignait d'avoir été tiré du sommeil et de la moiteur du lit au milieu de la nuit, à son âge, obligé de se vêtir 4 à 4, au risque de prendre une fluxion de poitrine. Aussi, craignant d'avoir eu l'air de m'excuser de la venue tardive d'Albertine, en tout cas, je suis bien content qu'elle soit venue, tout est pour le mieux. Et je laissai éclater ma joie profonde. Elle ne demeura pas longtemps sans mélange, quand j'eus entendu la réponse de Françoise. Celle-ci, sans proférer aucune plainte, ayant même l'air d'étouffer de son mieux une toux irrésistible, et croisant seulement sur elle son châle comme si elle avait froid, commença par me raconter tout ce qu'elle avait dit à Albertine, n'ayant pas manqué de lui demander des nouvelles de sa tante. Justement, j'y disais, monsieur devrait avoir crainte que mademoiselle ne vienne plus parce que « ce n'est pas une heure pour venir, c'est bientôt le matin. » Mais elle devait être dans des endroits qu'elle s'amusait bien, car elle ne m'a pas seulement dit qu'elle était contrariée d'avoir fait attendre monsieur. Elle m'a répondu d'un air de se ficher du monde. « Mieux vaut tard que jamais. » Et Françoise ajouta ces mots qui me percèrent le cœur. En parlant comme ça, elle s'est vendue. Elle aurait peut-être bien voulu se cacher, mais je n'avais pas de quoi être bien étonné. Je viens de dire que Françoise rendait rarement compte dans les commissions qu'on lui donnait, sinon sur ce qu'elle avait dit, et sur quoi elle s'étendait volontiers, du moins de la réponse attendue. Mais si, par exception, elle nous répétait les paroles que nos amis avaient dites, si courtes qu'elles fussent, elle s'arrangeait généralement, au besoin grâce à l'expression, au ton dont elle assurait qu'elles avaient été accompagnées, à leur donner quelque chose de blessant. À la rigueur, elle acceptait d'avoir subi d'un fournisseur chez qui nous l'avions envoyé une avanie, d'ailleurs, probablement imaginaire, pourvu que, s'adressant à elle, qui nous représentait, qui avait parlé en notre nom. Cette tavanie nous atteignit par ricochet. Il ne restait qu'à lui répondre qu'elle avait mal compris, qu'elle était atteinte de délire de persécution et que tous les commerçants n'étaient pas ligués contre elle. D'ailleurs, leurs sentiments m'importaient peu. Il n'en était pas de même de ceux d'Albertine. En me redisant ces mots ironiques, « Mieux vaut tard que jamais. Françoise m'évoqua aussitôt les amis dans la société desquels Albertine avait fini la soirée, si plaisant donc plus que dans la mienne. Elle est comique. Elle a un petit chapeau plat avec ses gros yeux. Ça lui donne un drôle d'air. Surtout avec son manteau qu'elle aurait bien fait d'envoyer chez les stoppeuses. » Car il est tout mangé. Elle m'amuse, ajouta comme en se moquant d'Albertine, Françoise, qui partageait rarement mes impressions, mais éprouvait le besoin de faire connaître les siennes. Je ne voulais même pas avoir l'air de comprendre que ce rire signifiait le dédain et la moquerie. Mais pour rendre coup pour coup, je répondis à Françoise, bien que je ne connusse pas le petit chapeau dont elle parlait. « Ce que vous appelez petit chapeau plat est quelque chose de simplement ravissant. »« C'est-à-dire trois fois rien, » dit Françoise, en exprimant franchement cette fois son véritable mépris. Alors d'un ton doux et ralenti, pour que ma réponse mensongère eût l'air d'être l'expression non de ma colère, mais de la vérité, en ne perdant pas de temps cependant pour ne pas faire attendre Albertine, j'adressai à Françoise ces paroles cruelles. « Vous êtes excellente, lui dis-je mielleusement, vous êtes gentille, vous avez mille qualités, mais vous en êtes au même point que le jour où vous êtes arrivée à Paris. » Aussi bien pour vous connaître en choses de toilette que pour bien prononcer les mots et ne pas faire de cuir. Et ce reproche était particulièrement stupide, car ces mots français que nous sommes si fiers de prononcer exactement ne sont eux-mêmes que des cuirs, faits par des bouches gauloises qui prononçaient de travers le latin ou le saxon, notre langue n'étant que la prononciation défectueuse de quelques autres. Le génie linguistique à l'état vivant, l'avenir et le passé du français, voilà ce qui eût dû m'intéresser dans les fautes de Françoise. Les stoppeuses pour la stoppeuse, n'étaient-ils pas aussi curieux que ces animaux survivants des époques lointaines, comme la baleine ou la girafe, et qui nous montrent les états que la vie animale a traversés? Et, ajoutai-je, du moment que depuis tant d'années vous n'avez pas su apprendre, vous n'apprendrez jamais. Vous pouvez vous en consoler, cela ne vous empêche pas d'être une brave personne, de faire à merveille le bœuf à la gelée et encore mille autres choses. Le chapeau que vous croyez simple est copié sur un chapeau de la princesse de Guermantes, qui a coûté 500 francs. Du reste, je compte en offrir prochainement un encore plus beau à Mademoiselle Albertine. Je savais que ce qui pouvait le plus ennuyer Françoise, c'est que je dépensasse de l'argent pour des gens qu'elle n'aimait pas. Elle me répondit par quelques mots que rendit peu intelligible un brusque essoufflement. Quand j'appris plus tard qu'elle avait une maladie de cœur, quel remords j'eus de ne m'être jamais refusé le plaisir féroce et stérile de riposter ainsi à ses paroles. Françoise détestait du reste Albertine parce que, pauvre, Albertine ne pouvait accroître ce que Françoise considérait comme mes supériorités. Elle souriait avec bienveillance chaque fois que j'étais invité par Madame de Villeparisis. En revanche, elle était indignée qu'Albertine ne pratiquât pas la réciprocité. J'en étais arrivé à être obligé d'inventer de prétendus cadeaux faits par celle-ci et à l'existence desquels Françoise n'ajouta jamais l'ombre de foi. Ce manque de réciprocité la choquait, surtout en matière alimentaire. Qu'Albertine accepta des dîners de maman si nous n'étions pas invités chez Madame Bontemps, cela lui paraissait, de la part de mon ami, une indélicatesse qu'elle flétrissait indirectement en récitant ce dicton courant à Combray. Mangeons mon pain, je le veux bien, mangeons le tien, je n'ai plus faim. Je fis semblant d'être contraint d'écrire. « À qui écrivez-vous ? » me dit Albertine en entrant. « À une jolie amie à moi, à Gilberte Swann. Vous ne la connaissez pas ? » ?»« Non. » Je renonçais à poser à Albertine des questions sur sa soirée. Je sentais que je lui ferais des reproches et que nous n'aurions plus le temps, vu l'heure qu'il était, de nous réconcilier suffisamment pour passer aux baisers et caresses. Aussi ce fut par eux que je voulais, dès la première minute, commencer. D'ailleurs, si j'étais un peu calmé, je ne me sentais pas heureux. La perte de toute boussole, de toute direction, qui caractérise l'attente, persiste encore après l'arrivée de l'être attendu et substituée en nous au calme, à la faveur duquel nous nous peignions sa venue comme un tel plaisir, nous empêche d'en goûter aucun. Albertine était là, mes nerfs démontés, continuant leur agitation, l'attendaient encore. « Je veux prendre un bon baiser, Albertine. »« Tant que vous voudrez, » me dit-elle avec toute sa bonté. Je ne l'avais jamais vue aussi jolie. « Encore un, mais vous savez que ça me fait un grand, grand plaisir. »« Et à moi encore mille fois plus, » me répondit-elle. « Oh, le joli portefeuille que vous avez là !»« Prenez-le !» Je vous le donne en souvenir. Vous êtes trop gentil. On serait à jamais guéri du romanesque, si l'on voulait, pour penser à celle qu'on aime, tâcher d'être celui qu'on sera quand on ne l'aimera plus. Le portefeuille, la bille d'agate de Gilberte, tout cela n'avait reçu jadis son importance que d'un état purement intérieur, puisque maintenant, c'était pour moi un portefeuille, une bille quelconque. Mademoiselle Albertine est partie. J'avais une telle habitude d'avoir Albertine auprès de moi, et je voyais soudain un nouveau visage de l'habitude. Jusqu'ici, je l'avais considérée surtout comme un pouvoir annihilateur qui supprime l'originalité et jusqu'à la conscience des perceptions. Maintenant, je la voyais comme une divinité redoutable, si rivée à nous, son visage insignifiant, si incrusté dans notre cœur, que si elle se détache, si elle se détourne de nous, cette déité que nous ne distinguions presque pas, nous inflige des souffrances plus terribles qu'aucune, et qu'alors elle est aussi cruelle que la mort. Le plus pressé était de lire sa lettre, puisque je voulais aviser au moyen de la faire revenir. Je l'ai sentais en ma possession, parce que, comme l'avenir est ce qui n'existe encore que dans notre pensée, il nous semble encore modifiable par l'intervention in extremis de notre volonté. Mais en même temps, je me rappelais que j'avais vu agir sur lui d'autres forces que la mienne et contre lesquelles, plus de temps m'eût-il été donné, je n'aurais rien pu. À quoi sert que l'heure n'ait pas sonné encore, si nous ne pouvons rien sur ce qui s'y produira? Quand Albertine était à la maison, j'étais bien décidé à garder l'initiative de notre séparation. Et puis, elle était partie. J'ouvris la lettre d'Albertine, elle était ainsi conçue. Mon ami, pardonnez-moi de ne pas avoir osé vous dire de vive voix les quelques mots qui vont suivre, mais je suis si lâche. J'ai toujours eu si peur devant vous que même en me forçant, je n'ai pas eu le courage de le faire. Voici ce que j'aurais dû vous dire. Entre nous, la vie est devenue impossible. Vous avez d'ailleurs vu, par votre algarade de l'autre soir, qu'il y avait quelque chose de changé dans nos rapports. Ce qui a pu s'arranger cette nuit-là deviendrait irréparable dans quelques jours. Il vaut donc mieux, puisque nous avons eu la chance de nous réconcilier, nous quitter bons amis. C'est pourquoi, mon chéri, je vous envoie ce mot. Et je vous prie d'être assez bon pour me pardonner si je vous fais un peu de chagrin en pensant à l'immense que j'aurai. Mon cher grand, je ne veux pas devenir votre ennemi. Il me sera déjà assez dur de vous devenir peu à peu et bien vite indifférente. Aussi, ma décision étant irrévocable, avant de vous faire remettre cette lettre par Françoise, je lui aurais demandé mes malles. Adieu. Je vous laisse le meilleur de moi-même, Albertine. Tout cela ne signifie rien, me dis-je. C'est même meilleur que je ne pensais. Car comme elle ne pense rien de tout cela, elle ne l'a évidemment écrit que pour frapper un grand coup, afin que je prenne peur. Il faut aviser au plus pressé. C'est qu'Albertine soit rentrée ce soir. Le malheur imprévu avec lequel je me trouvais aux prises, il me semblait l'avoir lui aussi déjà connu pour l'avoir lu dans tant de signes où j'avais discerné la lassitude, l'horreur qu'elle avait de vivre ainsi en esclave. Ce coup physique au cœur que donne une telle séparation, on s'était promis de l'éviter, on s'était dit qu'on se quitterait bien. Mais il est infiniment rare qu'on se quitte bien, car si on était bien, on ne se quitterait pas. Toute femme sent que, plus son pouvoir sur un homme est grand, le seul moyen de s'en aller, c'est de fuir. Fugitive, parce que reine. C'est ainsi. On croit que selon son désir, on changera autour de soi les choses. On le croit parce que hors de là, on ne voit aucune solution favorable. On ne pense pas à celle qui se produit le plus souvent et qui est favorable aussi. Nous n'arrivons pas à changer les choses selon notre désir, mais peu à peu, notre désir change. La situation que nous espérions changer parce qu'elle nous était insupportable nous devient indifférente. Nous n'avons pas pu surmonter l'obstacle comme nous le voulions absolument, mais la vie nous l'a fait tourner, dépasser. Et c'est à peine, alors, si en nous retournant vers le lointain du passé, nous pouvons l'apercevoir, tant il est devenu imperceptible.
Ainsi se termine cette nouvelle émission de la série que nous consacrons à Marcel Proust. Le thème de celle-ci était Albertine, femme libre. Des illustrations musicales sont venues ponctuer les lectures. Il s'agissait d'extraits musicaux tirées de différentes pièces du groupe Itinérance et de Jean-Claude Guerre, son fondateur et compositeur. Ces émissions sont réalisées avec la participation à la diction, mais aussi au choix des thèmes et extraits retenus d'André Bonhomme, engagé avec nous dans cette aventure littéraire et radiophonique. Thank you.
Thank you.